Jack London, Le Vagabond des Étoiles, chapitre 25. Je rends visite à Jack Oppenheimer. On me laissa donc désormais tranquille dans ma cellule. Et privé ainsi de ces séances de camisole, je me trouvais fort désappointé. Je ne savais plus comment tout d'abord produire en moi la petite mort et m'envoler en rêve parmi les étoiles. Puis je découvris que je pouvais, par ma seule volonté et par la compression de ma couverture sur ma poitrine, produire moi-même la transe cataleptique. Les résultats physiologiques et psychologiques étaient les mêmes, et j'en fus fort satisfait. C'est ainsi que je pus un jour aller rendre visite à Jack Oppenheimer dans son cachot. Ed Morel, je l'ai dit, prêtait une créance entière à toutes mes aventures de l'au-delà, que je lui tapais. Mais Oppenheimer persistait toujours dans son scepticisme. Un jour donc, tandis que j'étais en catalepsie, je me trouvais sans l'avoir voulu, transporté près de lui. Mon corps, je m'en rendais compte, était étendu par terre dans ma propre cellule. Mais j'étais en esprit, présent, pourtant, près d'Oppenheimer. Quoique je n'eusse jamais vu cet homme, je le reconnus facilement et sus que c'était lui. Nous étions en été, il gisait déshabillé, complètement nu, sur sa couverture. Je fus péniblement affecté par l'aspect cadavérique de sa figure et par celui de son corps squelettique. C'était à peine une carcasse humaine. Ses os, dépouillés de toute espèce de chair, n'étaient plus enveloppés que d'une peau tendue et ridée qui ressemblait à du parchemin. Par la suite, quand je fus de retour dans ma cellule et quand je rappelai à moi mes souvenirs, je me rendis compte que l'état où se trouvait physiquement Jack Oppenheimer devait être identique en tout point au mien et à celui d'Ed Morel. Et je m'émerveillai que nos belles intelligences pussent subsister quand même en d'aussi tristes carcasses. Il y a des gens qui admirent et adorent la chair, cette chair née de l'herbe et qui s'en retourne en herbe, qu'ils aillent donc tâter un peu des cachots solitaires de la prison de Saint-Quentin. Ils y apprendront la supériorité de l'esprit sur la matière. Mais revenons près d'Oppenheimer. Son corps était pareil à celui d'un homme qui serait mort depuis longtemps et qu'aurait ratatiné le soleil brûlant du désert. La peau qui le recouvrait avait la couleur de la boue sèche. Les yeux, grands ouverts, paraissaient être tout ce qui vivait encore en lui. Ils étaient d'un gris jaunâtre et leur regard ardent ne demeurait jamais en repos. Tandis que Jack restait étendu sur le dos immobile, ses yeux promenaient et dardaient leurs prunelles vers plusieurs mouches qui voltigeaient au-dessus de lui, en folâtrant dans la pénombre de la cellule. Je remarquai aussi une cicatrice qu'il avait au coude droit et une autre à sa cheville droite. Au bout d'un instant, il se mit à bâiller, se tourna sur son côté et examina une plaie placée au-dessus de la hanche et qui paraissait le démanger. Il commença à la nettoyer et à la panser par les moyens rudimentaires que peut employer un prisonnier. Je reconnus sans peine que cette blessure était de la nature de celles qui sont causées par la camisole. Après quoi, Oppenheimer se roula sur le dos, il saisit délicatement entre son pouce et son index une des dents de sa mâchoire supérieure, placée sous l'œil. La branla derrière en avant avec beaucoup d'attention, puis il bâilla, s'étira les bras, se retourna encore et frappa son appel à destination d'Ed Morel. J'écoutai ce qu'il disait. « Comment vas-tu ? » lui frappait-il. « Dors-tu ou es-tu éveillé ? Comment va le professeur ?» Confus et lointain, j'entendis les coups frappés en réponse par Morel. « C'est un type tout à fait chic, » reprit Oppenheimer. « Je me suis toujours défié des gens qui ont de l'instruction, mais celui-là l'éducation ne l'a pas corrompu. C'est un homme franc et carré. Il a un grand courage, et pour or ni argent, on ne lui ferait expectorer ce qu'il n'a pas dans la tête de dire. Ils n'auront jamais la dynamite. » Ed Morel approuva et amplifia encore mon éloge. J'ai eu tant, dans cette existence, que dans mes existences passées, même mouvement d'orgueil. Eh bien, je dois dire que jamais je ne me sentis aussi flatté qu'en entendant mes deux camarades, ces nobles esprits, s'exprimer ainsi sur mon compte et m'égaler à eux. Parfaitement. Rien ne me fut dans tous les temps aussi précieux que l'accolade morale de ces deux condamnés à vie que le monde considère comme des rebuts du dépotoir humain. Lorsque j'eus regagné mon corps dans ma cellule, je rapportai à Jack et lui tapai la visite que je lui avais faite. Mais il demeura inébranlable dans son incrédulité. Lorsque je lui eus décrit comment il m'était apparu et les actes auxquels il se livrait, il me répondit « Tu devines à la fois et tu imagines. Depuis le temps, professeur, que tu es comme nous au cachot, tu as pu facilement te rendre compte en pensée de ce que Morel et moi pouvons y faire pour tuer le temps. » Rester étendu sans vêtements lorsqu'il fait chaud, observer les mouches, penser nos blessures, frapper de l'un à l'autre une conversation, ce sont là des actes que nous avons maintes fois causés. Ed Morel intervint en vain. « Ne te fâche pas, professeur, de ce que je te dis là, » reprit Oppenheimer. « Ce n'est pas pour te vanter, je ne prétends pas que tu as menti, je dis simplement que tu as des fumées comme un alcoolique. Et tu prends ensuite pour argent comptant les visions qui t'ont traversé la cervelle. Pardon, protestai-je. Tu sais comme moi, Jack, que nous ne nous sommes jamais vus, est-ce exact? Je n'en sais rien et je veux bien te croire sur parole, quoique tu puisses m'avoir vu jadis quelque part sans connaître qui j'étais. Pardon, pardon, ne dévions pas la question. En tout cas, je ne t'ai jamais vu déshabillé. Comment alors pourrais-je savoir et te dire que tu as deux cicatrices anciennes, l'une au coude droit, l'autre à la cheville droite? Bagatelle, mon signalement court ainsi que ma gueule tous les bureaux de police des États-Unis. Ce n'est pas une rareté. Jamais, je t'assure, j'en ai eu connaissance. Tu le crois, comme tu le dis, mais tu as oublié. Il y a comme cela dans la vie des tas de choses dont on ne se souvient plus et qui nous reviennent tout à coup. Cela arrive à tout le monde, écoute-moi. Parmi les jurés qui me condamnèrent à Auckland, à mes 50 ans de prison, il y en avait un dont, un beau jour, j'oubliais totalement le nom. Eh bien, je restais, durant des semaines étendu sur le dos dans ma cellule, à le chercher, sans pouvoir le retrouver. Impossible de l'extirper de ma boîte crânienne. Je pouvais croire à bon droit qu'il était parti à tout jamais. Il n'était qu'égaré. Un matin, comme je n'y pensais même plus, il descendit de lui-même de mon cervelet sur le bout de ma langue. Stacy, me mis-je à dire tout haut. Joseph Stacy. C'était le fameux nom. Il y a des tas de gens, je le répète, qui connaissent ces deux cicatrices. Ils t'en auront fait part, je ne sais où, ni comment. Jack Oppenheimer était cependant un homme étonnant, honnête et scrupuleux. Écoutez-moi bien. La nuit suivante, comme je commençais à m'assoupir, je l'entendis qui frappait. Il me disait « Une chose me trouble, professeur. Tu m'as déclaré m'avoir vu remuer entre mes doigts une de mes dents qui branlait. Ici, j'y perds mon latin. Il n'y a pas 8 jours qu'elle s'est mise à bouger et je ne l'ai dit à personne.